Autour Radio, la radio web, banlieue sud.
Qui est Marcel Boucher? Il est philosophe, historien, fondateur et rédacteur en chef de la revue Le Débat, que je vais consulter régulièrement à la bibliothèque municipale. Il y a un débat plutôt intéressant. L'ouvrage qu'il a particulièrement fait connaître, c'est Le Désenchantement du Monde, que je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont en mémoire, et s'est engagé, non pas une sorte de suite, mais un prolongement du Désenchantement du Monde, dans la rédaction de 4 livres, dont, en tout cas, j'ai lu les 2 premiers, le 3e et le 4e ne sont pas encore livrés. Monsieur, donc nous lui prenons du temps dans l'avancée de son œuvre, qui sont des moments tout à fait importants pour comprendre le monde moderne et contemporain. Le premier ouvrage est intitulé La Révolution moderne, qui court de 1500 à environ 1900. Le second, La crise du libéralisme, qui traite en particulier de la période 1880 à 1914, qui nous montre comment, dans cette période, s'est construite, je dirais, la matrice du XXe siècle, de ses tragédies comme de ses réussites. Et comment l'explosion du cadre hérité de l'univers religieux, c'était bien ça, la disparition du poids du religieux qui était l'objet du désenchantement du monde, comment l'explosion du cadre hérité de l'univers religieux sera la source des folies totalitaires, comme le ressort de l'approfondissement et de la stabilisation des démocraties libérales. Les ouvrages à venir sont donc, en découlant de ce que je viens de rappeler, À l'épreuve des totalitarismes, et le dernier ouvrage, le dernier opus de cette somme historique, de philosophie historique, ce sera Le Nouveau Monde, qui traitera de la réorientation de nos sociétés. Et aujourd'hui, Marcel Boucher a souhaité aller directement à l'essentiel et essayer d'éclairer pour nous ce qu'il considère aujourd'hui comme un moment important, grave, de crise de la démocratie. Ce sera donc l'intitulé de cette conférence.
Viendra un jour, mon patron me dira, allez, je vous augmente aussi, mais aujourd'hui je vous licencie. Merci aux pots de la langue de bois, merci aux rêves d'un millionnaire, donnez des pièces jaunes à Carla pour qu'elle nous sorte de la galère. Merci aux banques sans foi ni loi, le pouvoir d'achat ne me connaît pas, la seule bourse assez bien pour moi, c'est celle que je touche à la fin du mois. Alors pour toute l'hypocrisie, à Sarkozy, grâce à vous tous, on se dit bon Dieu dans quel monde.
Autoradio, la radio web banlieue sud.
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la politique n'est pas encore très fort et que la démocratie souffre d'un sérieux mal de langueur. Ces constats sont devenus la banalité même. Avant d'aller plus loin, je voudrais toutefois faire ressortir ce que cette situation, que chacun peut apprécier, a de paradoxal, voire de mystérieux. Après tout, on pourrait légitimement soutenir que la démocratie ne s'est jamais aussi bien portée. Son principe a gagné à l'échelle planétaire. Je dis bien le principe, les applications, c'est autre chose. Mais enfin, la démocratie n'a plus aujourd'hui, à la surface du globe, de véritables adversaires. Il n'y a plus personne, nulle part, en position de prétendre lui substituer un régime meilleur. Et même les gens qui ne l'aiment pas beaucoup sont obligés de feindre de se couler dans un cadre pour le détourner. Par ailleurs, à de certains égards, à l'intérieur des démocraties, elles bien installées, les nôtres, en Europe, la vitalité de la revendication démocratique n'a jamais été aussi vigoureuse. Et pourtant, les citoyens de ces démocraties dont le principe n'est pratiquement plus discuté sont en proie à un malaise profond, un malaise extraordinairement difficile à cerner. Un malaise qui ne se réduit pas, même si ce sont là ces signes plus évidents, à l'abstention électorale, ou, indice à mes yeux plus significatif, à la perte de confiance dans les institutions. Le malaise va plus loin. C'est la nature de ce malaise que je voudrais essayer au moins de circonscrire. Il existe une explication toute faite du paradoxe que je pointe, une explication massive, quotidiennement martelée au travers de quelques mots qui tiennent lieu de réflexion. Mondialisation, économie, marché, néolibéralisme. Ces mots ont pour eux incontestablement la force de fait considérable et ils bénéficient en outre de l'autorité du mode d'explication dominant au sein de notre monde. L'économisme, le marxisme est mal portant, mais l'économisme ne s'en porte que mieux. Marx croyait que la bourgeoisie était contrainte structurellement, pour ainsi dire, d'être idéaliste. Il serait bien surpris s'il revenait aujourd'hui de voir que la dite bourgeoisie a épousé d'enthousiasme le matérialisme. Dans la perspective économique, le phénomène perd tout son mystère. La démocratie dépérit parce qu'elle est débordée par force de l'économie libérale et que, pour qu'il en reste, le système politique est mis au service de l'économie et perd ainsi son sens. Je ne songe pas une seconde à mésestimer la part de vérité que comporte cette interprétation. Mais elle me semble grandement insuffisante. Je voudrais donc faire valoir une autre explication qui me semble plus profonde et plus compréhensible, plus capable de rendre compte davantage. Une explication qui permet de faire leur place aux effets de la libéralisation économique, mais sans faire résulter de l'économie le phénomène de la crise de la démocratie lui-même. L'économie ne s'est pas imposée dans cette position hégémonique toute seule. Ce qu'il faut expliquer précisément, c'est ce rôle prééminent qu'elle a acquis. À mon sens, la perte de substance de la démocratie est fondamentalement un phénomène interne qui s'enracine dans l'évolution de la démocratie elle-même. Et plus précisément dans les transformations de grande ampleur qu'elle connaît depuis une trentaine d'années. Voilà la thèse qui me semble le mieux répondre à notre problème et que je voudrais essayer d'argumenter. Ce qu'il s'agit de comprendre, en fait, c'est le moment particulier de l'histoire de la démocratie où nous nous trouvons aujourd'hui. Car la démocratie n'est pas une essence intemporelle, mais une expérience en devenir. Pour le dire en peu de mots, c'est, à mon sens, une crise de croissance de la démocratie que nous avons à faire. Une crise de croissance qui n'est pas la première du genre, mais la seconde. L'intérêt de cette mise en perspective historique, pour finir, est de nous aider à nous faire une idée de ce que pourrait être l'issue de la crise de notre champ. Il faut bien chercher par deux. Le phénomène étonnant dont nous sommes, c'est un retournement inattendu de la démocratie contre elle-même dans le cours de son développement historique. C'est au tour de ce mécanisme qui met aujourd'hui la démocratie en opposition avec elle-même, du dehors elle-même, que je vais me concentrer. Comment clarifier cette formule de démocratie elle-même en précisant ce qu'elle ne veut pas dire? Elle n'a rien à voir avec l'autodestruction légale, comme dit en allemand, avec la cession de Hitler au pouvoir d'avoir des victimes qui fournissent le même. Nous ne sommes plus du tout dans une même configuration, dans une configuration beaucoup d'égards inverse. La démocratie, je le disais à l'instant, l'a emportée sur toute la vie. Nous sommes portés par une grande vague de démocratisation qui déferme à l'échelle mondiale depuis les années 1970. Elle a son point de départ très précis en 1964 avec la révolution des Juillets au Portugal. Au cours des années suivantes, les dictatures en Grèce, en Espagne, s'évanouissent, puis les dictatures en Amérique du Sud, puis, à la fin des années 1980, les régimes du prétendu socialisme réel en Europe. Mais cette vague de démocratisation ne s'est pas limitée à une extension dans l'espace. Elle s'est traduite aussi, là où la démocratie était déjà installée, par une pénétration plus poussée dans la société. C'est ce qui suffit de parler d'une phase de croissance de la démocratie, caractérisée autant par sa généralisation, le seul régime désormais, que par son approfondissement, là où dans ses grands. Ces principes sont établis. En s'étendant et s'étendant de la sorte, la démocratie s'est transformée. Rien n'a bougé, ou très peu, dans les textes. Mais l'esprit de l'art, la fait fonctionner, ne sont plus dans l'esprit, nous pouvons en livrer la nature. La démocratie s'est mise à l'école de ses principes fondateurs. Voilà le cœur de cette transformation depuis maintenant un peu plus de 10 ans. La démocratie est devenue une démocratie des ordres, ce qu'elle n'avait jamais été, sinon très régulièrement, comme révolution des droits de l'homme. Et encore ne l'avait-elle été qu'à titre de tentative. Mais le changement de la société à travers le 19e et première décennie du 20e siècle a condamné cette perspective de l'histoire et de la société, amplifiée par la révolution industrielle, avait imposé une autre optique. Et un homme au titre idéal, mais en temps d'une action aussi peu qu'impratique. C'est encore cette idée historique et sociale pratique qui a été décor de l'après 1945 et de leur consolidation durant les Trente Glorieuses. En 1975, l'idée des droits de l'homme faisait figure maigrie, vraiment ambiguë, et sans grande conscience. On mesure le genre. Dans la deuxième moitié des années 1970, les repères sont précis, je n'ai pas le temps de le faire, mais nous pourrons en parler si vous souhaitez. Dans la deuxième moitié des années 1970, ils ont commencé à se frayer un chemin. Nous pouvons dire, c'est exactement le moment de leur rentrée en grâce, qui est un moment qui montre bien l'ambiguïté qui était encore à l'époque, ainsi autour de l'idée 1915, des accords des visites. Les analystes de l'époque, et à la mauvaise échelle, je n'ai pas dit autre chose, qui m'ont trouvé, disent les Occidentaux ont fait un pacte avec le diable en échange d'une concession parfaitement verbale des Soviétiques sur les droits de l'homme, troisième qui ils ont accordé un brevet d'honorabilité. Les plus grands peuples, en France et autres, ont tous été dans cette démarche. En fait, cette Soviétique n'a plus pu accepter les droits de l'homme s'engageant. Il ne s'engageait à rien. Son père, on le faisait petit, de proche en proche, s'est révélé une efficacité redoutable. petit à petit, s'est mis en place un véritable retour au fondement de nos régimes, tandis que, parallèlement, à l'Est, la revendication des droits de l'homme s'est révélée une sape très efficace contre les régimes de totalitarisme diabolique, disons, qui étaient dans nos régimes, sont par un moment tout à fait remarquable à suivre, à la philosophie du contrat. Pour en résumer, il n'y a pas de avec la liberté de nature. Dès lors, tout lien légitime passé entre eux, ou avant tout tort, ne procède que de leur accord. Ou du moins, en fait, à sa fin, nous y étions, la première méthode, la création du lien, c'est de fait cette norme qui impose de plus en plus par une étreinte implacable, genre installée dans la foulée, une idée passe de l'idée sociale, passive. Cette idée juridique s'exprime dans la notion d'état de droit, mettant au premier plan l'action des idées personnelles. Ce retour en force ne s'est pas fait. Il a cheminé par ailleurs à vague d'individualisation, qui est la transformation majeure de nos sociétés au cours de ces 30 mêmes dernières. Une individualisation qui a bouleversé tout l'espace social, depuis la famille jusqu'aux institutions politiques et au centre du travail. Une évolution majeure qui était en même temps aussi des transformations de la culture et de la technique qui ont vu le déclin des grandes organisations et le basculement grâce à l'informatique vers une société en réseau. Pour être encore, c'est qui exposé tout à brasser toujours un peu de temps. On parlerait du schématisme de ces considérations, c'est de mettre en place des données en partie connues, et donc je n'ai pas d'avis. Si on essaie de ramener à l'essentiel cette transformation d'esprit du fonctionnement de la société, dans la période qui court de 1945, la préoccupation prioritaire, c'était l'organisation du travail. Depuis 1975, la préoccupation prioritaire est devenue l'indépendance des parties. C'est précisément dans ce cadre qu'il faut situer la place acquise par l'économie. Son autonomisation par rapport au reste de la vie sociale a un degré inégalé jusqu'à là. En fait, cette autonomisation de l'économie obéit au même principe que l'individualisation. Et elle est étroitement liée à elle. Mais si elle prend d'autres visages. C'est dans cette norme qu'il faut, à mon sens, la source de difficultés. Direct. On peut dire la manière dont les principes fondamentaux questionnent la réalité de son pouvoir. Elle se vit, dans le sens du même mouvement que ces normes fondatrices avancent. C'est à ce niveau et en ce sens qu'on peut être de démocratie. Voilà où se situe le mécanisme central de l'analyse à beaucoup d'égards, si élargie. Ce retournement de la démocratie contre elle-même s'observe à deux niveaux principaux. Je les partagerai successivement. On a deux espaces. Ce retournement se manifeste en premier lieu par un changement diffus, mais de compréhension de la nature et des fins de la démocratie. De compréhension qui en fait une partie. De façon tout à fait révélatrice, le mot même de démocratie a changé au cours de ces dernières décennies. Il désignait la capacité, en un mot, des comités politiques de s'auto-gouverner. Il ne renvoie plus, plus au quotidien, aux libertés qu'on pouvait faire, peut-être, député démocratique, le régime qui garantit la plus grande attitude au système. Donc, la notion libérale de la démocratie elle a, pour ainsi dire, absorbé la souveraineté, a supplanté la souveraineté du peuple. Le maître de la souveraineté du peuple. Bien vu, il ne s'agit pas de dresser une opposition tranchée entre les deux leçons. Elles sont vraiment liées. Et pour tout à fait comprendre le point, il faut remonter à la notion de démocratie libérale en la prenant sérieux. Il faut prendre à la lettre cette notion. Comment la démocratie libérale comporte deux composants. Le droit et l'organique. Donc, au passage, quand même, le droit et les économiques de céder, de contracter, d'échouer, de reprendre. Et puis, la composante démocratique, la transformation des libertés privées en publiques, en autogouvernance. Dans le respect des libertés privées, bien entendu, la démocratie, c'est l'interaction de chacun en pouvoir. C'est une dimension qui s'est comme effacée au profit de la première. Inadmissible dans l'esprit de nos contemporains. Le nouvel théâtre de la démocratie, on sait de la sorte. Le moins de pouvoir possible au profit du maximum de liberté personnelle. La France présente un cas de laboratoire à cet égard. Parce que la République s'établit signe d'un et d'un idéal particulièrement exigeant de la puissance publique. Cela a avoir un héritage d'artiste connu, mais aussi en raison de conflit avec l'Église catholique, qui a conduit à magnifier l'enjeu de liberté politique. La République laïque, c'était l'autonomie démocratique dressée contre la gestion terroriste. N'est plus spectaculaire. Le repli de la démocratie du public au profit d'une démocratie du privé est plus sensible. Par exemple, on reste en Europe, dans un pays, l'Angleterre, donc la tradition libérale ancienne rend le chaussant infiniment moins sûr. L'idée de base de cette démocratie libérée qui a besoin de se formuler pour être opérationnelle, l'essentiel des choses se jouent dans l'implicite, l'idée de base, c'est la coexistence libre et procédurale des droits individuels. J'insiste sur procédurale, la procédure est là en effet pour assurer en pratique que tous bénéficient d'une marge de manœuvre identique. Simplement, plus de droits chacun. C'est pour finir le pouvoir pour tous. Et si on ne trouve seulement les droits de chacun, il n'y a aucun pouvoir de tout. La communauté politique, c'est une société. Elle est une société politique de marché. Par là, non pas une société où le marché économique est sa loi au reste, et politique, mais une société. Le fonctionnement de la politique, c'est qu'un fonctionnement du marché économique. La forme d'ensemble de l'initiative est tenue dans ce cadre pour la résultante des entreprises, des individus et des groupes défendant leurs intérêts pour un processus d'agrégation automatique. Les banques dans ce système sont là pour garantir la règle du jeu et son respect et l'aménagement du cadre de cette interaction pluraliste des opinions, des intérêts, pour distinguer ce nouveau de fonctionnement du gouvernement gouvernement conçu pour des directions d'ensemble au nom de l'intérêt général de l'usage universel et large. En réalité, il y a toujours même activité, même quand on est dans loin de ligne directrice possible, et les individualités ou les groupes ne s'intéressent qu'à eux et à leur particulière, en laissant le point de vue de l'ensemble au personnel gouvernant, on assiste à une oligarchisation de nos sociétés politiques. Une oligarchisation qui n'empêche pas l'effervescence contestataire, pourtant, de se manifester, justement, ou des identités populaires. La logique de la démocratie énoncée à tort, la passivité. Sauf que contestation au nom du particulier ne dérange en rien, font les gouvernements. Si elle rend quelque part la tâche difficile au quotidien, est-ce que mettre en dernier sort des décisions qui vont l'avenir et la force des décisions au demeurant de plus en plus souvent prises à l'international, au nom de la contrainte technique et en dehors de la question publique. C'est une caractéristique du monde. Les peuples se sentent vivre sur une autre planète qui alimente autour un mécanisme connu, la protestation populiste. Que ce divorce entre le haut est créé par le fonctionnement de notre société politique. La consécration du droit en particulier fait que la gestion de l'ensemble, étant en oligarchie, est droite. Voilà, je veux dire, pour le premier niveau du mécanisme d'évitement qui affecte les racines d'aujourd'hui. Ce mécanisme prend autant de formes, plus nationales, une histoire particulière, mais ils en retrouvent partout. En tout cas, en Europe. Il existe aux États-Unis, mais le point de comparaison est intéressant. Il y est. Donc, il faut la peine de poser. En sens, parce que ce sentiment de l'opposition est balancé par la force de l'identification de la nation américaine, je suis citoyen, et qui plus est, une identification au rôle de la nation américaine dans le monde. Mais il existe un second niveau de démocratie, donc encore plus, à de démocratie contraire. À de certains égards, il est permis de penser que nous sommes engagés dans un processus de corrosion des bases du fonctionnement de la décision. Autodestruction douce pour résoudre les fondations de la démocratie qui laissent apparemment au principe attaque. Mais qui lui enlève sa raison. Je me suis dit, démocratie fondamentale. La démocratie, par une logique très forte, a dissocié du cadre historique dans lequel défend. On va faire court, il faudra ici long développement. La manière dont la démocratie est aujourd'hui pour la topographie ni histoire des individus, puisque leurs droits sont universels, ne sauraient être dépendants ni d'un territoire, ni d'une histoire et d'une culture. Autrement dit, la démocratie droit est un des plus assumés les conditions pratiques qui lui ont donné naissance. Ce déracinement l'avait vivre en porte-à-faux jusqu'à la schizophrénie dans un certain nombre de cas. Elle peut sur l'héritage d'une histoire qu'elle consume en se refusant à en assumer et à en transmettre les acquis. Nos démocraties sont, le constat a souvent été fait bien durer la signification, nos démocraties sont enfermées au présent. Cela parce qu'elles se regardent comme des évidences naturelles. Du coup, elles ne comprennent pas des intérêts de telle sorte qui devaient en être. Point actuel, elles ne comprennent pas les autres. Ce ne serait du monde pour lequel la démocratie est une idée. Encore rien à l'assurer qu'il vienne de civilisations très différentes, d'où les échecs. Par répétition, d'un bout à l'autre de la planète, démocratie occidentale, Occident égale États-Unis, sûrement, d'où leurs échecs lorsqu'ils entreprennent d'exporter la démocratie, sans comprendre les conditions qui permettent de faire. d'où aussi bien la réalité à laquelle on ne préoccupe plus de transmettre et d'envoyer l'esprit qui a présidé à la construction au plus différent. Plus fondamentalement encore, on est travaillé par le refus de l'esprit, de pouvoir capable de faire passer ses choix dans la réalité. Très bref, rappel historique. Pratique, la démocratisation des sociétés européennes est passée par l'appropriation collective des États qui n'ont pas existé dans la démocratie. Les démocraties se sont emparées de ces États pour les démocratiser. Et pour être là, en soutenant que ce qui a permis la démocratie moderne, profondément différente sur ce point de la démocratie et de la démocratie grecque, la démocratie, c'est l'existence préalable du processus de constitution des États modernes. Or, nous décidons, toujours dans notre vie, antipolitique, par incapacité entre la logique et l'existence d'un pouvoir. Le pouvoir étant vu comme l'ennemi naturel des droits des personnes. C'est ici que se situe la racine de l'État et du principe de l'ordre. Cette remission va bien au-delà, en fait, de cause. À ce propos, le recul de leurs prérogatives économiques. Il est mais le fond de l'affaire est d'une autre nature. La vérité, c'est qu'ils sont de moins en moins compris dans le sens, en tant que vecteurs du gouvernement en commun. En résumé, la démocratie des droits de l'homme tend à se faire au nom de ses principes, de ses propres principes. Elle préfère sa vérité aux outils capables de la rendre. Elle tend à s'évader dans le virtuel. D'où la découverte douloureuse de l'impuissance publique qui est la journée. Mais sans doute, mais pour la plus grande part, elle vient du dedans. Je vais signer, souligne exactement, car j'ai appuyé sur le mot à plusieurs reprises, que je décris là une tendance. Une tendance qui n'est ni le tout la réalité de nos sociétés, ni la seule dans le vrai. Et une tendance extrêmement puissante et la tendance aujourd'hui domine. Alors maintenant, me direz-vous, quid des perspectives de diagnostic ? C'est là-dessus que je l'idée principale qui se dégage de cette analyse, c'est que c'est sa croissance même, l'approfondissement de la démocratie, qui la met en place. Je vous disais tout à l'heure, cette crise n'est pas la première raison, mais la seconde. Et il est important de pouvoir situer la nôtre, si je puis dire, avec ça qui correspond au moment d'entrée du suffrage universel des mœurs partout en Europe, fin 19e, début 20e siècle. Chose à laquelle nous autres Français sommes moins sensibles de par la particularité du pacte de couverture. Le suffrage universel est abolie plus tôt. Mais je vous rappelle, en 1914, il y a deux républiques sur le continent européen. Une grande, la France, une petite, la Suisse. 1900, général de l'entrée des faits du principe démocratique en Europe. Et puis, d'ailleurs, vous vous dites qu'il va arriver à la voilà, généralisation, à la universalisation du travail universitaire, loi préparable féminin, juste avant la guerre de l'Union. Ce moment 1900 marque l'entrée à l'échelle européenne de ce qu'on va appeler l'ère des masses. En même temps, ce problème, vas-y des pratiques, avancée pratique, s'accompagne d'une remise en question dramatique de ces démocraties qui paraissent s'installer irrésistiblement. Une remise en question qu'on voit monter au cours de cette période charnière. 1880-1914, elle explose dans le siège de la Première Guerre mondiale, après 1918, et culmine dans les années 1930 sous l'effet de la crise économique de 1929. Voilà la première crise de croissance de la démocratie. Donc, il faut examiner le principe. Et bien, à ceci que la promesse rayonnée de moi se renverse à l'expérience des illusions. On le disait en France, dès les années 1880, comme la République était belle sous l'Empire. Autrement dit, avant Christ, une fois qu'elle est là, elle est moins belle. Le gouvernement parlementaire et représentatif apparaît à partir de ces années à un nombre de plus en plus grand de gens comme une mystification pure et simple. En fait, d'autogouvernement promis par le suffrage universel, on a affaire à une perte générale de maîtrise collective et à plusieurs niveaux. L'outil politique de la démocratie, qui est alors à l'époque de manière incontestée le Parlement, est tenu de plus en plus et de plus d'une manière pour trahir les peuples qui est supposé représenter, le mensonge de la représentation. C'est le grand moment du thème. Par ailleurs, ce régime a pour effet de libérer l'expression des divisions au sein de la société et de créer une cacophonie incontrôlable. Cette irruption des divisions, la lutte de classe au centre de la vie sociale, vide de sens l'idée d'un quelconque intérêt général. Il n'y a que des intérêts irréductiblement antagonistes. Il en résulte le développement à l'extrême droite et à l'extrême gauche de programmes de reconstitution de l'unité collective, ou bien au nom de la nation, ou bien sous le signe de l'émancipation révolutionnaire du peuple. Quand le peuple aura acquis la plénitude de ses droits, l'unité de la collectivité sera retrouvée, assise sur l'appropriation collective des moyens de production. Ce n'est pas tout. Ces gouvernements parlementaires faibles ne sont pas en mesure de conduire et même de comprendre le changement social qui s'accélère. Nous sommes, ces années 1914, dans la phase de la deuxième révolution industrielle et d'un changement effectivement accéléré. La transformation de la société est comment on va. À quoi bon démocratie si c'est s'installer dans un monde qui, dans les faits, se échappe au pilotage des citoyens. Si les hommes font ça, c'est le cas de vérifier. Ils ne savent pas l'histoire. Ils la subissent tout en étant ses auteurs. Peut-on rêver des possessions plus grandes? C'est de la révolte contre cette déposition que sortiront les totalitaristes. Ils sont à comprendre comme des tentatives désespérées pour retrouver cette maîtrise politique que les démocraties bourgeoises paraissent incapables d'assurer. Mais c'est aussi comme une rétine à cette qu'il faut comprendre les grandes réformes des démocraties libérales après 1945. On ne saurait trop souligner l'importance de ces formations. C'est en fait là que naissent les démocraties libérales telles que nous les connaissons aujourd'hui. En réalité, jusque-là, on a affaire à des régimes qu'on pourrait dire de libéralisme démocratisé. Démocratisé par le suffrage universel. Ce n'est véritablement qu'à partir de l'après-guerre, de la Seconde Guerre mondiale en Europe, on peut parler de démocratie libérale dans la véhicule de l'expression. Je vais entrer dans le détail complexe de ces réformes pour simplement fixer les idées en énonçant l'essentiel et en donnant l'idée de la portée de ce qui s'est opéré à ce moment. Ces réformes sont de trois ordres. Elles sont d'abord des réformes politiques destinées à remédier au problème de la représentation sur lequel avaient achoppé les régimes parlementaires. Comment établir des régimes mieux représentatifs au-delà des parlements dans leur définition classique. Ces réformes sont ensuite des réformes, j'appellerais administratives, le mot très insuffisant, mais j'en vois pas d'autres, des réformes administratives destinées à donner aux États des moyens d'organisation et de pilotage, assurant à la fois la cohésion de l'espace collectif et la prise sur le changement. Dans l'après-1925, la grande idée, et en France plus particulièrement, pour répondre à ce problème, c'est la planification démocratique. Une idée qui n'est plus très à la mode, mais dont il faut mesurer tout ce qu'elle a apporté à la société comme instrument qui, eux, demeure toujours bel et bien en place, sur lesquels nous comptons au quotidien sans même y penser, et sans même pouvoir imaginer ce qu'était le monde social d'avant l'existence de tous ces indicateurs mécanismes qui nous rendent notre univers social, tant bien que mal, déchiffrable au niveau de nos actions du quotidien. Ces réformes sont enfin, c'est la partie la plus connue, je ne m'y attends pas, des réformes sociales, sous-tendue la notion d'État-providence, permettant la protection des individus contre tout ce qui les améliore de l'existence, qui les individus, leur capacité d'indépendance, la maladie, le trauma, la vieillesse, l'infirmité, etc. Mais, autorisant également à aller par différents canaux de redistribution vers davantage de justice sociale. Ces réformes ont été d'une efficacité dans la durée remarquable. C'est d'elles sort la démocratie pacifiée que nous connaissons. Très généralement, quand on parle de ces périodes, on ne retient que la haute croissance des fondements à laquelle on attribue tous les bienfaits de ces périodes. Mais côté de ce très miracle économique, je crois qu'il faut faire la part au miracle politique qui a conduit à ces régimes acceptés à l'intérieur desquels nous avons la chance de vivre. Ces réformes, ce sont ces réformes qui sont venues à bout avec le temps des rejets révolutionnaires, que ces rejets révolutionnaires de la démocratie soient formulés au nom du passé ou qu'ils soient formulés au avenir. Mais cette consolidation a aussi permis la relance en avant, la marche en avant de la démocratie, dont les manifestations se développent depuis les années 1970, celle que j'ai évoquée rapidement, marche en avant qui nous replonge dans la crise, dans une nouvelle crise de croissance de la démocratie. Un siècle après, nous nous retrouvons dans une situation équivalente, dans son principe, à celle des années 1900. Même si elle est très différente dans ses expressions. En 1900, d'une autre manière, nous bénéficions de plus de démocratie, mais une démocratie qui tend vers l'impuissance, la paralysie, quand elle ne tend pas à détruire ses fondations. Ce parallèle des deux crises de la démocratie permettrait d'indiquer l'échelle de temps dans laquelle les grands pour affronter les problèmes qu'il faut se projeter dans la durée. Il ne s'agit pas d'y répondre par un programme électoral pour la prochaine élection présidentielle. Nous avons affaire à des cycles de longue année avec des entreprises qui se développent à l'échelle des décennies. Le temps profond de la démocratie, c'est son grand problème, n'a pas grand à voir avec le temps court des échéances électorales. Mais le parallèle des deux crises a l'intérêt aussi de montrer que la réforme est possible et que la crise est surmontable. Au fond, le problème auquel on se heurte, donc on réfléchit à cette situation, c'est le scepticisme profond des citoyens. En face, j'ai eu l'occasion de mener petite enquête dans leurs mains, ils ne croient absolument pas à la possibilité. Et rappeler qu'un certain nombre de repères permettent de mesurer le possible. Qui, en 1939, en Europe, aurait parié cher sur les régimes numéraux qui subsistaient à l'ouest du continent et qui paraissaient d'une faiblesse irrémédiable par rapport au régime de force et d'autorité qui presque partout poussait sur le pied. Et pourtant, elles l'ont emporté. Et elles l'ont emporté dans la durée parce qu'elles ont su se transformer, sans très bien savoir comment, à tâtons, mais avec des résultats spectaculaires. Que peuvent être ces transformations qui sont devant nous? Que c'est modèle leur efficacité dans le passé. A l'évidence, on ne reviendra pas sur les marques de manœuvre conquises par les individus. Et au-dedans, on reviendrait-on. L'idéal de la démocratie, c'est bien, c'est-à-dire les personnes, mais balancé par la traduction politique. On ne reviendra pas sur l'émancipation des sociétés civiles, y compris l'émancipation de l'activité économique. Il faut se faire ce chapitre. Aucune illusion. L'étatisation n'est pas au programme. Et, par ailleurs, enfin, nous n'avons pas d'autres fondements disponibles que les droits. Il ne s'agit pas de critiquer les droits humains. Pas plus, d'ailleurs, que l'individualisme. Il s'agit de les éclairer. Donc, clarifier leurs conditions d'application. De manière à leur doctrine pénale. Il s'agit de comprendre, il s'agit de montrer aux agents que leur liberté personnelle ne prend tout son sens que dans le cadre d'un gouvernement en commun, bien compris dans ses bases et ses conditions. C'est-à-dire un gouvernement qui passe par le type et par l'histoire. Pour s'inscrire dans le réel et pour avoir un sens. Il faut de penser que cela ne peut pas se faire. Après tout, le moteur n'existe pas de la chercher. Que les contradictions vécues par les individus, par nous tous. Nous sommes libres, de plus en plus libres, mais nous avons de moins en moins de pouvoir. Eh bien, une liberté sans pouvoir, et tout simplement dérisoire.